enlever ça. Est-ce que ça fonctionne, le micro, c'est bon? Apparemment oui. Très bien. Eh bien, nous continuons notre parcours de la première épître aux Corinthiens. Est-ce qu'on peut mettre tout de suite la première diapo? Voilà. Est-ce que j'ai la main? Nous sommes au chapitre 2 à partir du verset 6. Très bien. Et que nous dit ce verset 6? Cependant, nous aussi, nous annonçons une sagesse aux croyants adultes dans la foi. Alors les croyants adultes, retenez bien ce terme, on y reviendra. Une sagesse qui n'est pas de ce monde, ni celle des grands de ce monde qui sont destinés à disparaître. Notre texte d'aujourd'hui commence par « cependant ». Pourquoi « cependant » ? Parce que ça nous ramène à notre prédication précédente de cette épître aux Corinthiens, dont évidemment tout le monde se souvient, qui parlait de... Ah, c'est vrai, c'est loin, c'était en août. Nous avions vu Paul qualifié de folie la prédication de la croix, une folie aux yeux des Grecs, qui est la culture à laquelle appartenait la plupart de ses lecteurs, des destinataires de sa lettre. Et pourquoi une folie? Parce que pour eux, un Messie crucifié, ça n'avait pas de sens, ça ne répondait à aucune logique, ce n'était même pas intéressant. Un Dieu qui se prétend le Dieu unique, créateur de toutes choses, nous compris, qui se présente à nous cloué sur une croix, rejeté par ses propres créatures, c'est juste incohérent. Les Grecs, eux, avaient l'habitude des discours persuasifs, des concepts attirants, de rhétorique de haute voltige, et de punchline percutante. Et nous l'avons vu, Paul n'était pas ce genre de tribun. Et même pire, lorsqu'il est arrivé à Corinthe, il était dans un état de faiblesse tel qu'il en tremblait de crainte, selon son propre aveu. On ne pouvait pas lui reprocher d'avoir séduit les Corinthiens par la hardiesse et la puissance d'un discours de sophiste, et encore moins d'un discours sophistiqué. Et cependant, et c'est donc le sens de ce qui suit, ce à quoi Paul s'oppose, ce n'est pas la sagesse en tant que telle, mais à toutes les formes de philosophie par lesquelles l'homme se prend pour un sage. Car il existe bien une sagesse, mais qui n'est pas de ce monde, même parmi les plus grands, une sagesse divine est néanmoins accessible aux humains que nous sommes. La sagesse que Paul a dénoncée précédemment est une sagesse dont les limites ne dépassent pas les limites de l'homme. Une rivière ne peut pas couler plus haut que sa source. La pensée d'une sagesse humaine ne peut pas s'élever plus haut que les pensées et les préoccupations humaines, fût-elle proclamé brillamment. Mais la sagesse, elle, en tant que telle, n'en est pas moins vantée dans de nombreux passages de l'Ancien Testament, et notamment les Proverbes, je cite quelques extraits. La sagesse crie bien haut dans les rues, sa voix résonne sur les places publiques. Dominant le tumulte, elle appelle. Près des portes de la ville, elle fait entendre ses paroles. Proverbe 1. Proverbe 8. Écoutez, la sagesse appelle. La raison élève la voix. Elle est postée sur les hauteurs, le long des routes, au carrefour. Tout près des portes de la ville, là où on passe pour entrer, elle fait retentir sa voix. C'est chacun de vous que j'appelle. C'est pour vous, les humains, que ma voix se fait entendre, à vous qui manquez d'expérience. Apprenez donc à réfléchir et à vous, insensés, devenez donc intelligents. Car moi, entre parenthèses, la sagesse, car moi j'ai des choses à dire, des choses capitales, et ce sont des paroles justes qui franchiront mes lèvres. Oui, ma bouche proférera la vérité. Le mal fait horreur à mes lèvres et mon palais proclamera uniquement ce qui est juste. Nous étions dans le Proverbe 8. Mais cette sagesse serait-elle inaccessible? Voyons ce que dit Paul. Ah, ça ne marche plus. Alors, est-ce qu'on... Voilà, merci. On est bien au verset 7, hein, voilà. Voyons ce que dit Paul à ce sujet. Non, nous, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète et cachée, que Dieu avait préparée avant le commencement du monde, en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Christ glorieux. Et oui, hein, on en revient toujours là. Seule une sagesse supérieure, la sagesse de Dieu, permet de comprendre le sens d'un Messie crucifié, d'aller au-delà des apparences de faiblesse et d'échec que pouvait offrir aux hommes le triste spectacle d'un Christ crucifié. Mais verset 9, comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et de ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime. Et donc, inaccessible, non, puisque Dieu tient cela en réserve pour ceux qu'il aime, mais néanmoins secrète et cachée aux yeux de ceux qui n'en font aucun cas, de ceux qui n'en font aucun cas. Et ça, c'est un peu ce que Pascal a exprimé dans une de ses pensées, je cite, « Dieu a dosé sa connaissance en sorte qu'il a donné des indications visibles à ceux qui le cherchent et invisibles à ceux qui ne le cherchent pas. Il y a assez de lumière pour ceux qui désirent voir et assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire. » Et ça, ben, je ne sais pas comment il fait, Dieu, mais le fait est là, celui qui cherche le trouve. Et sinon, non. Il ne s'agit même pas de le chercher judicieusement, méthodiquement, par tout autre moyen, chacun fait comme il peut, comme il veut, mais chercher vraiment. La semaine dernière, Tim nous a cité les paroles de cet enfant qui, face à la beauté d'un vitrail éclairé par le soleil, reconnaissait la présence de Dieu à travers la lumière, traversant l'image des saints. Mais si vous cherchez Dieu, j'espère que vous trouverez parmi nous assez de lumière pour faciliter et orienter vos recherches dans la bonne direction. Paul parle ici de ceux qu'il aime, c'est-à-dire ceux qui aiment Dieu. Phonétiquement, ça peut sonner autrement, hein. Il ne faut pas se méprendre. Il ne s'agit pas de ceux qu'il aime, c'est-à-dire ceux que Dieu aime, car Dieu aime tout le monde. Et ce Christ crucifié qui heurte autant la logique et la sagesse humaine, c'est son Fils dont l'amour a culminé jusqu'à la mort de la main même de ceux qu'il venait sauver. Il avait dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, et ce n'était pas une vaine parole. Quand Paul parle de ceux qui aiment Dieu, il s'agit bien sûr de ceux qui l'ont déjà rencontré, c'est-à-dire les croyants, ceux que nous appelons les chrétiens. Et en effet, il serait difficile d'aimer ce qu'on ignore. Néanmoins, cependant, pour reprendre le propos de Paul, n'y a-t-il pas dans l'attirance de celui qui cherche Dieu les prémices d'une forme d'amour ? Ou tout au moins peut-être un amour de la vérité, de la justice, de toutes ces choses qui caractérisent Dieu ? Ne recherche-t-on pas plutôt ce qu'on pense pouvoir aimer ? Personne ne cherche ce qu'il rebute a priori. Quoi qu'il en soit, que celui qui s'approche de Dieu, ce Dieu qui ne connaît pas encore le sache, Dieu l'aime déjà. Et même si sa motivation n'était pas encore l'amour, mais peut-être plutôt la crainte, et ça c'était mon cas, la crainte de la condamnation, la crainte de passer à côté de la vie éternelle, Dieu l'aime déjà. Et progressivement, la crainte s'estompera au contact de l'amour de Dieu. Nous poursuivons. Or Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Nous l'avons rappelé lors de notre série de prédications sur le Credo. Dieu existe en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il y a dans ces trois personnes une telle unité, une telle intimité qu'elles sont à la fois Dieu ensemble et Dieu personnellement. Paul fait ici un parallèle avec l'homme. En gros, il dit « Je suis le seul à connaître ce que je pense ». Et encore, pour ce qui me concerne. Personne ne peut le savoir, ce que je pense, à moins que je ne le lui dise. Encore faut-il que je trouve les bons mots. Bon. Bref, Paul reprend cette idée pour dire que personne ne peut parler de Dieu mieux que Dieu lui-même. Et donc l'Esprit de Dieu, qui est Dieu, est parfaitement à même de parler de Dieu, de parler en son nom, de faire connaître sa pensée. Et ça tombe bien dans le verset suivant, car nous avons reçu non pas l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Et nous entrons ici dans une opposition frontale entre l'esprit du monde et l'esprit de Dieu, deux sagesses opposées, deux façons de penser, deux mentalités opposées. Toutes les sociétés humaines transmettent à leurs membres leur culture, leurs convictions, leurs préjugés, leurs valeurs morales, leurs habitudes qui modèlent leur façon de penser et de vivre. Personne parmi nous n'échappe à l'air du temps, aux idées reçues ou à la mentalité dominante. Eh bien, Paul nous dit que nous, c'est-à-dire nous qui croyons en Dieu, le Père qui nous a créés, en son Fils qui nous a rachetés et en son Esprit qui nous conduit et nous renouvelle, nous avons cet Esprit en nous. Vous aurez reconnu dans mes propos la parole de déclaration de foi qu'on demande aux baptisés d'approuver, et c'est ce que vous entendrez très certainement la semaine prochaine. Cette déclaration, nous qui croyons en Dieu le Père, qui nous a créés, son Fils qui nous a rachetés de nos fautes, et nous croyons en son Esprit qui nous conduit et nous renouvelle. Et par grâce, de manière imméritée, le croyant est racheté de ses fautes. Par grâce, il reçoit l'Esprit de Dieu, et c'est toujours par grâce que son Esprit le conduit et le renouvelle de jour en jour. Mais au début de sa vie chrétienne, le jeune croyant n'en est pas pleinement conscient. Peut-être il n'en tire pas encore toutes les conséquences, il manque encore de vraie sagesse. J'invitais tout à l'heure ceux qui ne croient pas ou pas encore à chercher Dieu, à le chercher vraiment. Eh bien ça, c'est l'étape d'après. Mais la démarche est un peu la même. Tout comme Dieu ne force personne à croire en lui, il ne forcera non plus personne à lui laisser le volant et conduire sa vie. De la place que nous laissons à l'esprit dans notre vie, dans nos pensées, nos valeurs. Ceci dépendra de notre croissance et de notre compréhension spirituelle. En un mot, la sagesse de Dieu à l'œuvre en nous. Alors bien sûr, il est normal que le processus s'inscrive dans le temps. Si Israël est sorti en quelques jours de l'Égypte, il a néanmoins fallu 40 ans pour que l'Égypte sorte du cœur d'Israël, pour que leur culture, leurs valeurs ne soient plus influencées par ces longues années passées en Égypte. Mais nous, nous dit Paul, nous avons reçu l'Esprit même qui vient de Dieu. Et c'est un peu là que ça pêche chez les Corinthiens, qui n'ont que trop tendance à croire que c'est au moyen de la sagesse humaine, la sagesse du langage, la rhétorique, qu'ils pourront avancer dans la connaissance de Dieu. Et c'est ce que Paul dit en creux au verset 13. Et nous, nous en parlons, non pas avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Dans l'église de Corinthe, le spirituel avait été, on peut dire, confisqué par une élite, ou du moins qui se prétendait élite sur la base des valeurs de la société environnante. Et nous l'avons vu ceci au chapitre 1, tel qu'un tel se réclamait d'Apollos parce qu'il était bon orateur, de Paul parce qu'il était le fondateur de cette église de Corinthe, de Pierre en tant que chef apôtre et chef de la première église. Et sans parler du super spirituel qui arrive toujours dans ces cas-là et qui ne prétend ne suivre que Christ, mais plus probablement en réalité lui-même et ses propres pensées. N'avaient-ils pas, ces Corinthiens, reçu, comme tous les autres croyants, l'Esprit de Dieu ? Ben si, mais pas plus que Dieu ne s'impose à l'homme qui ne désire pas s'approcher de lui. De même, son Esprit ne s'impose pas aux chrétiens qui restent s'accrocher au volant et ne laisse pas renouveler son esprit. Les chrétiens de Corinthe, éclairés par l'esprit comme tout chrétien, sont en mesure de recevoir, pour reprendre le propos de Paul, tous les bienfaits de Dieu, tous les bienfaits que Dieu leur a accordés par grâce, l'enseignement des réalités spirituelles, mais ça, ils n'ont pas tous compris. Et ils ne grandissent pas en sagesse, on pourrait dire qu'ils prennent du retard sur leur itinéraire, sur leur feuille de route, sur la marche normale de leur croissance spirituelle. Vous vous souvenez, je vous ai dit de retenir cette expression, les adultes dans la foi, ils ne sont pas ces adultes dans la foi qu'ils devraient être, selon l'expression de Paul. On a approfondira ce point la prochaine fois au chapitre 3, parce que Paul vraiment fait un gros focus là-dessus. Alors, en attendant, continuons notre lecture. Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut, lui, juger de tout, sans que personne ne puisse le juger. Et nous revenons ici à l'homme sans Dieu, c'est-à-dire l'homme qui n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu, ce qui n'est clairement pas le cas des Corinthiens. Et il ne faudrait surtout pas voir dans ce propos une accusation, une condamnation de l'incroyant, mais plutôt une mise en parallèle de la situation de l'incroyant avec celle du croyant. Le croyant peut comprendre, l'incroyant, non. Le croyant peut juger, l'incroyant, non. Et pourquoi ? Parce que le croyant a en lui, grâce à la présence de l'Esprit de Christ, la pensée de Christ. Et donc, loin de condamner l'incroyant, ici, Paul met le chrétien qui ne tire pas profit de l'Esprit face à ces contradictions, est-il normal qu'il se comporte comme celui qui ne dispose pas de l'éclairage de l'Esprit ? N'en est-il pas plus inexcusable ? Avoir le ticket, ne pas monter dans le train ? Avoir le ticket et se tromper de train ? Peut-être même avoir le ticket et continuer de se comporter en resquilleur. Verset 16, Paul dit, « Car il est écrit, qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire ?» Mais nous, nous avons la pensée de Christ. Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Et Paul reprend ici une parole du prophète Ésaïe dans une ancienne version grecque, où Ésaïe dit en substance, qui a fait le tour de la pensée du Seigneur, qui pourrait l'instruire, qui serait à même de le conseiller? La réponse, je crois qu'elle est évidente, hein, personne. Et à la fâcheuse tendance qu'ont les Corinthiens de juger, de comparer les enseignements d'Apollos, de Pierre, de Paul, et on est toujours dans ce contexte-là, on verra, ça deviendra plus clair la prochaine fois. Pire encore, de mesurer ces enseignements à l'aune de leur philosophie, de leurs critères d'éloquence, on dirait peut-être aujourd'hui de leur technique de communication. Paul répond en creux, oui, peut-être, sauf que Dieu fait comme il veut. Si Paul, Apollos ou Pierre ne vous conviennent pas, vous voyez ça avec lui. Expliquez-lui qu'il s'est trompé, qu'il a fait une erreur de casting. Et cette affirmation, mais nous avons la pensée de Christ, comment la comprendre? Et qui est ce nous d'ailleurs? Est-ce que c'est juste les trois personnes dont il est question dans le contexte, Pierre, Apollos et Paul? Ou est-ce que Paul inclut également tous les apôtres? Ou est-ce qu'il englobe tous les croyants, comme jusqu'à présent dans le texte que nous venons de regarder? Et justement, dans le contexte, et d'après ce qui précède, fort logiquement, Paul continue de distinguer le croyant de l'incroyant, de celui qui dispose de l'esprit et de celui qui n'en dispose pas. Il ne faut pas y voir l'idée d'une supériorité quelconque, et encore moins d'arrogance du croyant sur l'incroyant, mais plutôt une ressource supplémentaire dont dispose le chrétien, une ressource qui lui donne accès à la compréhension de la pensée, de la sagesse de Dieu, mais qui augmente aussi son niveau de responsabilité dans ses choix de vie, dans ses valeurs. Et pas seulement pour lui-même, mais aussi comme image de Christ à offrir au regard de l'incroyant, afin qu'il trouve en nous, parmi nous, assez de lumière pour faciliter et orienter ses recherches dans la bonne direction. Nous avons évoqué aujourd'hui ce qu'est la sagesse de Dieu et ce qu'elle n'est pas. Nous avons évoqué où est l'Esprit de Dieu, où il est et là où il n'est pas. Et je voudrais terminer par ce qu'en dit Jacques. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté, qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints d'humilité qui caractérisent la vraie sagesse? Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter, ce serait faire entorse à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel, elle est de ce monde, de l'homme sans Dieu, elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. En plus, elle aime la paix, elle est modérée, conciliante, pleine de compassion. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui produira un fruit conforme à ce qui est juste. Et donc, j'aimerais vous, pour terminer, vous proposer un chant qui dit « Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. » J'ai été frappé, on l'a beaucoup dit, on l'a beaucoup chanté ce matin, hein, cette notion du Dieu qui règne en nous. Hein. Même si l'Esprit de Dieu est déjà venu en lui, le croyant peut faire sienne les paroles de ce chant et inviter l'Esprit de Dieu, à prendre les rênes de sa vie. Et celui qui est encore en recherche peut saisir cette occasion de lui adresser cette invitation. Sauve-moi, Seigneur. Que ton esprit vienne en moi. Fais de moi ton enfant. Amen. Si les musiciens peuvent revenir pour...